Bonjour à tous. En tant que juge, j'ouvre le procès des artistes Marylis et Ilonas, qui sont accusés de diffamation par le grand Platon, un crime d'une extrême gravité. Un crime très crimineux. Je vous laisse la parole, Platon.
Madame la juge, je suis choquée, indignée, offusquée de l'irrespect dont ces, entre guillemets, artistes, ici présentes, ont fait preuve. En 2001 ans de philosophie, je n'ai jamais vu cela. Les artistes de cette nouvelle génération ont porté atteinte à mon travail. C'est blessant, humiliant et dégradant.
Ah, un jury veut poser une question. Nous vous écoutons.
Merci, madame la juge. Monsieur Platon, pouvez-vous nous expliquer quelle est cette œuvre ?
Horrible, affreuse, une immondice. Grâce à cette invention que vous appelez la toile, j'ai eu accès à d'innombrables documents sur ma personne. Et horreur, je suis tombée sur un portrait composé de détritus. Vous me traitez donc de vieillard ayant des idées bonnes à passer à la poubelle.
Monsieur, si je peux me permettre, en tant qu'artiste, vous jugez notre œuvre sans chercher plus loin. Et vous ne nous remettez jamais en question. Par ce portrait, nous voulions défendre notre métier d'artiste que vous avez critiqué dans vos textes. En effet, c'est vous qui nous avez manqué de respect en premier en disant que nous sommes des charlatans et des trompeurs.
Exactement, cher ami. En vous représentant en détritus et vos idées en déchets, nous voulions simplement rétablir une vérité, car vos mensonges n'ont que trop duré. Vous dites que les artistes sont un danger pour la cité, mais il y a d'innombrables exemples qui prouvent notre bonne volonté et la nécessité de l'art.
À ce que je vois, les femmes parlent toujours autant, si ce n'est plus. Écoutez-moi bien. L'art est une copie de copie qui ne nécessite pas une forte intellectualité, ni de recherche approfondie pour faire avancer notre société. Votre œuvre ne représente pas une image vertueuse. Elle encourage des comportements déviants.
Stop, ok. Nous avons compris votre argument, Platon. Nous ne sommes pas venus pour faire un cours de philo, ok ? Bon, laissons la parole à l'avocat de la défense.
Merci de me laisser la parole, madame la juge. En tant qu'avocat de la défense, j'aimerais simplement poser une question à monsieur Platon. Dans le tableau de Raphaël, l'école d'Athènes, vous êtes dans la même pose avec le doigt levé. Les artistes, ici présents, vous ont représenté de la même manière, simplement avec une approche différente. Qu'en dites-vous ?
Eh bien, ce tableau reflète certainement l'excellence de l'esprit, même s'il ne reste qu'une imitation du monde sensible. Il représente tout de même une image fondamentalement vertueuse. C'est une belle œuvre.
Or, vous êtes représenté de la même manière. Oui, c'est vrai que la deuxième œuvre ne contient pas de détritus, mais les formes restent les mêmes au niveau des deux tableaux. Vous êtes représenté avec un air savant et votre légitimité intellectuelle et philosophique est appuyée par votre index levé vers le ciel. Une œuvre d'art peut avoir deux contenus, deux significations différentes, si vous préférez, mais ceci n'exclut pas d'avoir le même contenant ou réceptacle.
Allons, nous savons tous qu'il y a bien trop d'ambiguïté dans l'interprétation. Regardez donc les déchets qui recouvrent mon portrait. C'est une véritable manipulation de la part de ces artistes, si on peut toujours les appeler comme tels. En me représentant de cette manière, elles cherchent à me discréditer, mais aussi toute la philosophie et la pensée critique. C'est sans doute parce qu'elles ne veulent pas que le monde se rende compte que j'ai raison. Elles ne veulent pas perdre leur liberté de manipuler dangereusement les gens avec leur art. Il est comme une ombre qui, par sa mouvance face au peuple, le conduit en silence sans qu'il en ait conscience. Seul l'État est capable d'utiliser l'art à bon escient et de l'encadrer correctement.
Désolé, monsieur Platon, je vais devoir contredire votre argumentaire archaïque et dépassé. Il est en effet possible que l'art, et donc les artistes, nous manipulent. Mais pourquoi est-ce que l'État ne pourrait pas faire de même ? Regardez par exemple. Le tableau de Mona Lisa, de Léonard de Vinci, donne l'illusion au public de le regarder de n'importe où, d'où il se situe. C'est l'effet du regard invariant. Le regard du sujet doit être dirigé de manière à se situer face au spectateur. Un effort de réalisme au niveau de la représentation des yeux fait alors du tableau un véritable trompe-l'œil qui manipule dangereusement la population selon vos dires. Vous savez ce qui est dangereux ? La guerre.
Oui, exactement. D'ailleurs, tout le monde connaît l'affiche de l'oncle Sam.
Parfaitement, cher ami. Cette image de propagande reprend l'effet Mona Lisa. On se sent scruté, appelé, concerné par ce regard qui nous demande expressément de rejoindre l'armée américaine. Mais attendez, qui a commandé cette affiche pour faire de la propagande au sein de la population en cultivant son nationalisme ? Bah, l'État.
Eh oui, monsieur Platon, l'État, que vous adulez, réutilise les œuvres d'art en réactivant des formes iconographiques qui sommeillent en nous pour nous duper.
Mona Lisa est un exemple universel pour la cour, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
Il existe des exceptions pour tout. Cet exemple n'est pas pertinent. Je maintiens que seul l'État peut réaliser l'art porteur de vérité et de bon. Pour cela, il doit faire preuve d'esthétisme. et être contrôlé par l'État, car seuls les penseurs à sa tête peuvent discerner la tromperie de l'art aux idées véridiques et vertueuses.
Pour M. Platon, l'esthétisme est garante de vérité. Laissez-moi vous démontrer que s'il est utilisé seul, il n'est porteur que d'immoralité. Et si nous parlions du cinématographe pour changer ? Après ses balbutiements, il prend de plus en plus de place dans la classe populaire et sa position en tant qu'art se discute.
Mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie ? Vous inventez des mots ? Vous n'aviez tellement pas d'arguments pour vous défendre que vous essayez de m'emboucaner.
Oh, dans la France à Macron, vous savez même pas ce que c'est que le cinéma.
Vous nous fatiguez, vous nous fatiguez.
Moi ? Moi ? Mais qui elle est, celle-là ?
Celle-là ? Celle-là ? Tu sais qui je suis ?
Ouais, tu sais qui on est ? Nous ?
Oh, taisez-vous, là ! Taisez-vous ! Et toi, tu poses cette chaise ! Je suis un avocat, bordel ! Je gère pas une garderie, moi je gère des procès. On n'est pas sur CNews. Bon, j'en étais où ? Ah oui, voilà. Alors, comme je le disais, il y a deux manières d'aborder ce nouveau médium qui projette de l'encre lumineuse dans ces salles obscures, d'après le fameux théoricien du cinéma Walter Benjamin. La première, c'est la politisation de l'art. Le cinéma possède alors une fonction émancipatrice. Il doit montrer les rapports de force, de pouvoir, afin d'interroger le spectateur sur ce qu'il est en train de voir. Le cinéma est alors un espace de réflexion et de débat public. Le deuxième mouvement est l'esthétisation de la politique, décriée comme typique des régimes fascistes. La politique devient un spectacle par les masses qui y sont mises en scène et la violence est rendue belle, héroïque, émotionnelle, afin de fasciner et tisser un narratif relevant de la propagande idéologique et la manipulation. Les nazis, par exemple...
Les nazis ? C'est qui ça encore ? Une amie à vous ? Une espèce de troubadour ?
Alors déjà, on dit pas troubadour, c'est hyper péjoratif. On dit personne à emploi fictif et salaire approximatif.
Slay girl, dis bien, dis bien.
Alors, je disais, les nazis ont chargé beaucoup de cinéastes allemands pour filmer des discours, des éléments ou des films de propagande, par exemple Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl, qui glorifie la supériorité des athlètes allemands avant les JO de 1936, ou la Continental Film en France, société sous contrôle allemande, produisant des films endormant la population afin d'éviter des révoltes. L'art, mais ici le cinéma, est vu par l'autorité nazie comme une boîte contenant des outils techniques permettant d'esthétiser leur politique au détriment des peuples. Aujourd'hui, nous sommes peut-être encore enclins à ce manège, à cette manipulation imagée, étatique et dorénavant médiatisée. C'est pour ces raisons qu'on ne peut purement travailler l'esthétisme d'une œuvre d'art, car c'est comme cela que nous causons notre perte, en rompant le mur indispensable entre vérité, relevant de la politique et de l'art, au mensonge esthétique.
Waouh ! Eh bien, merci cher avocat de la Défense pour tous ces arguments de poids. Pour ma part, j'ai trouvé la théorie de Platon intéressante. Il est vrai que les artistes ont tendance à transformer la réalité avec leur propre subjectivité, et par conséquent, à inciter la population à voir les choses à leur manière, ou à les tromper, si vous préférez.
Mais ça ne va pas, n'importe quoi.
Eh oh, du calme, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Laisse-la s'exprimer.
Merci, madame la juge. C'est pas possible, ces personnes qui coupent la parole comme ça. Donc, je disais... Je comprends qu'avec cette œuvre, vous craignez que la population ne soit trompée et qu'il ne vous voit plus que comme un déchet. Cependant, les arguments de l'avocat m'ont convaincu. Nous avons les preuves indéniables qu'au cours de l'histoire, l'art a été dépouillé de ses codes, afin d'instrumentaliser des images à maintes reprises par l'État, afin d'influencer la population.
Tout à fait, cher juré. Je dirais même que ce sont plutôt les artistes qui tentent de nous ouvrir les yeux en nous faisant réfléchir. Par exemple, Banksy est un street artiste engagé dont les œuvres posent des questions sur la société actuelle. Peut-être que cette œuvre qui vous indigne tant a été créée avant tout pour faire réfléchir le spectateur, plutôt que pour vous attaquer.
Avec ce procès, vous ne faites que leur donner raison. C'est vous qui tentez de nous imposer votre pensée par la censure. Une œuvre d'art n'oblige à rien à elle. Le spectateur en fait ce qu'il veut. Finalement, les artistes peuvent parfois nous aider à sortir de la caverne et à atteindre le monde intelligible. C'est peut-être vous qui devriez sortir de votre grotte et commencer à vivre avec votre temps.
De plus, l'art n'est pas une copie de la réalité. Au contraire, c'est une façon de se rapprocher. Et puis, si vous soutenez que les artistes ne font que des copies du monde réel, alors vous admettez que cette représentation de déchets est bien une copie de vous. Ce serait bien le seul point sur lequel je suis d'accord avec vous.
Et si l'art n'était vraiment qu'une simple copie, pourquoi changerait-il la façon de penser des gens? Les arguments solides de la défense le prouvent bien, que ce soit au service de la propagande ou pour dénoncer, l'art apporte quelque chose de nouveau à la réalité. Mais vous, ancien comme vous êtes, vous ne devez pas savoir ce que c'est.
Actuellement, l'ambiguïté et la pluralité des interprétations font partie de l'art et ne constituent pas à elles seules une diffamation. Bon, laissez-nous nous consulter. Merci. En effet, notre rôle n'est pas de juger si l'œuvre nous plaît ou nous choque, mais plutôt de déterminer s'il y a réellement diffamation. Nous avons entendu M. Platon affirmer que cette œuvre porte atteinte à son honneur et discrédite sa pensée. Mais après avoir entendu les deux parties, je constate que cette œuvre, bien que provocatrice, s'inscrit dans une démarche critique et artistique.
Toucher votre ego n'est pas punissable par la loi.
Les jurés vont maintenant rendre leur verdict.
Non coupable.
Merci, chers jurés et chers avocats, d'avoir voté en notre faveur. Vous avez su retranscrire au mieux notre art en mots et ainsi exprimer notre réelle pensée.
En effet, nous vous remercions infiniment, chers jurés, pour votre soutien lors de ce procès sans fin.
Par contre, monsieur Platon, en tant que juge, je vous ai trouvé fort grossier. Je ne peux compter les propos diffamatoires qui sont sortis de votre gosier durant ce procès. Il s'agirait de réfléchir avant de parler. N'est pas supposé être votre métier. Et non, c'est bien ce que nous a montré ces jeunes artistes. Enfin bref, avec tous vos propos, rendez-vous demain. Même lieu, même heure, et ça sera à votre tour de trouver un avocat.
Socrate n'aurait jamais laissé faire ça!
Radio.